Le passage par l'école des beaux-arts était impératif pour qui espérait voir un jour ses toiles appuyées aux cymes du salon. Presque tous les impressionnistes se plièrent à la règle. Trois fois la semaine, on y travaillait sur des modèles vivants, et le reste du temps, on se contentait de moulages où on s'en allait au Louvre copier des maîtres. Il s'agissait d'y apprendre le beau. Un beau académique, réduit à quelques règles simples et intangibles qu'il fallait appliquer avec zèle et soumission, pour ne pas dire avec routine. Dans un tel sanctuaire, le talent était suspect, l'originalité dénoncée avec mépris. L'élève, écrit Viollet-le-Duc en 1862, se devait de n'avoir que juste les idées admises par le corps et surtout de ne pas avoir la prétention d'en posséder à lui. Et tout cela dans une ambiance douteuse, faite de blagues grossières et de plaisanteries ordurières, entretenue tacitement par les maîtres au nom de la tradition et orchestrée par les vieux élèves, artistes ratés et sans le sou, grands discoureurs et grands buveurs, qui prenaient là une revanche sur la médiocrité de leur existence dans un empire à leur mesure. Le prestige d'une telle école était plus apparent que réel. Alors, soit par souci de liberté, soit par intérêt bien compris, certains élèves allaient compléter leur formation dans une académie privée ou dans l'atelier d'un professeur, manière habile de s'assurer sa protection lors des concours. Les jeunes artistes pouvaient aller compléter leur apprentissage dans les académies. Appellation prétentieuse pour les locaux souvent sordides. Là, pas de professeur, pas d'examen et une liberté totale. Pour une somme modique, on pouvait travailler sur des modèles vivants, tous les jours, sauf le dimanche. Les impressionnistes, par Corinne Grabert et Jean-François Guyot. Édition Solar. Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, la fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous accueillir pour le lancement de cette toute nouvelle saison, la saison 5. Cette nouvelle saison, pour l'autodidacte que je suis, représente pour moi une nouvelle opportunité d'explorer l'art et l'histoire des femmes artistes. Qu'elles aient laissé leur empreinte par le passé ou qu'elles continuent d'inspirer le monde artistique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec ce premier épisode qui va se composer en deux parties, la première sur l'histoire de l'impressionnisme et la seconde sur la place des femmes impressionnistes, je vous invite à embarquer au cœur de l'histoire de l'impressionnisme. Ce mouvement artistique, qui a vu le jour en France au XIXe siècle, a été une révolution artistique majeure. Il est né en réaction aux normes académiques rigides de l'époque, portant une vision audacieuse de l'art. Les artistes impressionnistes ont consciemment choisi de capturer l'instantanéité de la vie quotidienne, la fugacité de la nature et la magie changeante de la lumière. Tout au long de cette première partie, nous allons chercher à comprendre ce qui a motivé la naissance de ce mouvement et les éléments qui l'ont façonné. Nous allons explorer l'évolution du mouvement à travers les années et l'héritage précieux qu'il a laissé dans le monde de l'art. Et bien sûr, ce qui rend ce podcast particulièrement spécial, c'est toujours l'envie de mettre en lumière les femmes artistes souvent passées sous silence. Bien qu'elles aient contribué de manière significative à l'impressionnisme. Partie qui va être détaillée, bien sûr, à travers un second épisode. Car lors de mes recherches pour ce podcast, j'ai constaté que les récits traditionnels se concentrent fréquemment sur les figures masculines et qui ont laissé leur empreinte sur l'impressionnisme. Les femmes impressionnistes sont souvent occultées, reléguées à l'ombre de leur homologue masculin. On en cite peut-être une ou deux, comme Berthe Morisot et Marie Cassat. Cependant, en creusant un peu plus, nous découvrons qu'elles sont bien plus nombreuses. Et c'est précisément ces artistes dont on parle le moins que je souhaite mettre en avant au fil des épisodes de cette saison. Vous l'avez compris, tout au long de cette saison, nous allons donc explorer leur vie, leurs œuvres et leur contribution essentielle à l'histoire de l'art, l'histoire de l'impressionnisme. Alors, bonne écoute! Pour commencer, je pense qu'il est essentiel de comprendre l'époque dans laquelle l'impressionnisme est né. Il faut savoir qu'au cœur du XIXe siècle, Paris était une ville en constante mutation. L'atmosphère politique était chargée de tensions, les bouleversements sociaux étaient palpables et l'art se trouvait précisément au cœur de cette effervescence. Émile Zola, l'écrivain visionnaire, a parfaitement résumé l'esprit de cette époque en déclarant « Le monde change, la réalité change et l'homme change. Il n'y a que les imbéciles qui restent immobiles dans la réalité. Les artistes sont en dehors du monde et n'en gardent que les phénomènes au lieu d'en être écrasés. » Ces mots résument l'attitude révolutionnaire des artistes impressionnistes face à un monde en constante mutation sous le règne de Napoléon III. Le règne de ce dernier s'est caractérisé par une combinaison de réformes et d'autoritarisme. Il a cherché à moderniser la France en favorisant l'industrialisation, les travaux d'infrastructure et le développement économique. L'empereur a promulgué le code civil, favorisé le développement des chemins de fer et lancé des projets de rénovation urbaine à Paris, comme la transformation du centre de la ville sous la supervision du préfet Georges-Eugène Haussmann. Comme dit précédemment, le règne était autoritaire, avec une répression sévère de l'opposition politique, notamment après le coup d'État de 1851 qui avait porté Napoléon III au pouvoir. Le Second Empire a également été marqué par l'expansion coloniale en Afrique, en Asie et dans le Pacifique avec l'acquisition de territoires. Et la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870 a conduit la chute de Napoléon III, la proclamation de la Troisième République et son exil en Angleterre, laissant derrière lui un héritage très complexe. La révolution industrielle connaît une mutation décisive. Le chemin de fer, la banque, la modernisation des villes a amené son lot de changements sociaux. La naissance d'une société de consommation, l'urbanisation rapide a donné naissance à une classe ouvrière croissante, créant des tensions sociales et la misère. Dans les ruelles des quartiers quincampoix, il est de ces hôtels où, pour quelques sous, couchent les maçons qui s'en vont à leur travail à l'aube. Eh bien, dans les nuits d'hiver, il est de pauvres diables qui attendent, l'anglais aux mains, que ces garçons soient partis pour se glisser au rabais dans leurs draps encore chauds. Ils font la queue devant le logeur, comme devant un théâtre. Ils battent la semelle en attendant le sommeil. Claretti, La vie à Paris. Les impressionnistes se sont efforcés de capturer ces changements dans leur art, notamment en mettant en scène des scènes de la vie quotidienne. Avec la manière moderne du travail français, l'homme n'est rien qu'une machine. Son intelligence non fouettée s'endort. Renoir. Les cafés parisiens sont devenus des centres de discussion intellectuelle où des artistes, écrivains et penseurs se sont réunis pour débattre d'art et de politique. La censure politique était une réalité à l'époque, et l'Académie des Beaux-Arts exerçait un contrôle strict sur les expositions officielles. Les artistes impressionnistes se sont souvent heurtés à ce système et ont cherché des moyens indépendants de montrer leur travail, organisant leur propre exposition pour échapper à la censure. C'est donc dans ce contexte que l'impressionnisme a vu le jour. Animé par un désir de capturer la réalité changeante, de la lumière aux bouleversements sociaux, ils ont brisé les normes académiques et ont remis en question l'art traditionnel, donnant naissance à un mouvement artistique révolutionnaire qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art. Mais alors, comment est né l'impressionnisme? Quelles personnalités artistiques en sont à l'origine? Et quelles difficultés ce mouvement a-t-il dû surmonter avant d'être finalement reconnu et accepté dans le monde de l'art? L'histoire de l'impressionnisme débute donc avec la formation d'un groupe d'artistes qui cherchait à rompre avec les conventions artistiques établies et à développer un nouveau style de peinture. À l'époque, l'Académie des Beaux-Arts de Paris exerçait un contrôle strict sur le monde de l'art, déterminant les sujets, les styles et les normes à suivre. Cependant, un groupe d'artistes novateurs cherchait à briser ces conventions et à explorer de nouvelles voies artistiques. En 1873, sous l'initiative du photographe Félix Nadar, un collectif d'artistes décida de créer la Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs. Cette société avait pour objectif de permettre aux artistes de présenter leur travail de manière indépendante, contournant ainsi les critères restrictifs du salon officiel de l'Académie. Il faut savoir que les salons étaient des expositions artistiques annuelles organisées par l'Académie des Beaux-Arts de Paris, et ces événements étaient considérés comme les lieux officiels où les artistes pouvaient exposer leurs œuvres. Les salons avaient une longue tradition, remontant au XVIIe siècle, et étaient considérés comme les principaux forums d'exposition artistique en France. Ils jouaient un rôle central dans le monde de l'art de l'époque et avaient une influence considérable sur les artistes, les œuvres exposées et la manière dont l'art était et devait être perçu. Pour qu'une œuvre d'art soit exposée au salon, elle devait donc passer par un processus de sélection rigoureux. Un jury de l'Académie des Beaux-Arts était chargé de choisir les œuvres qui seraient exposées. Ce jury avait le pouvoir de décider quelles œuvres étaient acceptées et méritaient donc d'être exposées, et les artistes devaient se conformer aux normes et aux goûts de ce jury. Pour un artiste de l'époque, être exposé au salon était essentiel pour gagner en notoriété et en reconnaissance. C'était la principale opportunité pour les artistes d'exposer leur travail devant un public plus large, d'attirer l'attention des critiques d'art, des collectionneurs et des mécènes. Une exposition réussie au salon pouvait propulser la carrière d'un artiste. Aussi, lorsqu'en 1863, le jury du salon fait preuve d'une rigueur excessive, l'empereur entreprend un bras de fer avec l'Académie. Il ordonne que l'on organise un salon des refusés. Ainsi, chacun pourra juger. L'effet produit est l'inverse de celui recherché. L'opinion publique n'est pas prête à s'affranchir du goût officiel. Les pionnières, femmes et impressionnistes, édition des Falaises. Le rejet de nombreux artistes traditionnels du salon a conduit à la création de groupes indépendants et à l'organisation d'expositions alternatives, comme l'exposition de la Société Anonyme Coopérative des Artistes en 1874, qui a donné naissance au terme impressionnisme. Ces mouvements ont contribué à élargir la diversité artistique et à remettre en question les normes établies. Les membres fondateurs de la société étaient des artistes visionnaires, notamment comme Édouard Manet, Camille Pissarro, Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Edgar Degas, Paul Cézanne et d'autres. Ils partageaient une vision commune de l'art et se détachaient des normes de l'époque. Leur travail présentait des caractéristiques distinctes, telles que des couleurs vives, des effets de lumière, des scènes de la vie quotidienne et une attention aux détails du monde naturel. Après 10 ans d'insuccès, et malgré la réussite de Manet avec le bon Bock au salon de 1873, Monet et ses amis commençaient à réfléchir sur le moyen de contourner la difficulté. Le projet finit par germer d'une exposition indépendante, d'autant que la France subissait alors une grave dépression économique et que les achats se faisaient encore plus rares que d'habitude. Les impressionnistes, Corinne Graber et Jean-François Guyou, édition Solar. Le 15 avril 1874, quelques jours avant l'inauguration du salon officiel, les artistes de la Société Anonyme Coopérative des Artistes organisèrent leur propre exposition dans l'ancien atelier de Nadar, boulevard des Capucines. Parmi les œuvres exposées se trouvait l'une des œuvres les plus emblématiques de l'impressionnisme et un jalon important de l'histoire de l'art, Impression Soleil Levant de Claude Monet, considéré comme le chef de file du mouvement impressionniste. Cette peinture, créée par Monet au port du Havre en 1872, représente un port au lever du soleil et se caractérisait par l'utilisation audacieuse de coups de pinceau rapides, des couleurs vives, afin de capturer l'effet de la lumière et de l'eau. Le titre « Impression soleil levant » est énigmatique. Monet a choisi ce titre en partie pour faire référence à l'effet du soleil levant sur le paysage marin, mais aussi comme une allusion à l'idée que son œuvre n'était qu'une impression ou un instantané de la réalité. Sans savoir bien sûr que ce titre allait inspirer le terme « impressionnisme ». Un critique d'art, Louis Leroy, rédigea une critique sarcastique de l'exposition, déclarant que les œuvres semblaient être de simples impressions et qualifiant les artistes impressionnistes de manière péjorative. Sous l'article « L'exposition des impressionnistes », Louis Leroy déclarait « Oh, ce fut une journée fatigante lorsque je me suis aventuré en compagnie du peintre de paysage Joseph Vincent. Décoré de médailles et de distinctions par divers gouvernements à la première exposition du boulevard des Capucines. Il pensa à trouver, comme partout, des peintures bonnes et mauvaises, plutôt mauvaises que bonnes, mais pas de tels manquements, contre les grands maîtres et la forme. » Le terme impressionniste fut ainsi utilisé pour la première fois pour décrire ce groupe d'artistes. Ironiquement, ce terme initialement destiné à être insultant fut adopté par les artistes eux-mêmes pour décrire leur approche artistique novatrice. Ils ont donc choisi de s'identifier comme impressionnistes en signe de rébellion contre les normes académiques et pour mettre en avant leur engagement envers la capture des impressions fugaces de la réalité. J'ai choisi quelque chose de notre époque actuelle parce que je la comprends le mieux et qu'elle me paraît la plus vivante pour les vivants. Frédéric Basile. Le vocabulaire impressionniste contient de toute évidence le mot impression. Impression directe, vivante, instantanée, souvent rendue dans une fraction, perçue comme fortuite du cours des événements. Ce sont des scènes et des personnages de la vie moderne, quotidienne, et non de ces descriptions d'histoires antiques ou mythologiques qui dominaient l'art traditionnel jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les impressionnistes ont été les premiers à trouver que les travailleurs, les prostituées, les passants dans la rue ou au café étaient dignes d'être représentés dans l'art. Impressionnisme, Karine Grimm, édition Tatchen. L'exposition de 1874 marqua donc le début officiel du mouvement impressionniste qui allait influencer de manière significative l'art du XIXe siècle et au-delà. Les artistes impressionnistes ont continué à explorer les possibilités de la lumière, de la couleur, de la nature, créant des œuvres d'art emblématiques qui furent présentées lors de 8 expositions qui eurent lieu de 1874 à 1886. Mais j'aimerais évoquer l'importance accordée au coloris dans cet art, l'un des aspects les plus distinctifs et influents de ce mouvement artistique. Alors en effet, l'impressionnisme a révolutionné la manière dont les couleurs étaient utilisées, et cela s'est harmonieusement conjugué avec le développement de la couleur dans la vie moderne, notamment grâce à l'invention des tubes de peinture. Alors que les impressionnistes ont le plus souvent peint en plein air, directement devant leur sujet ou au lieu de travailler dans un atelier, ce qui leur permettait d'observer et de reproduire les nuances subtiles des couleurs, eh bien l'invention des tubes de peinture leur a permis de transporter des couleurs prémélangées sur le terrain, facilitant ainsi leur travail. Les artistes ont ainsi pu explorer de nouvelles palettes de couleurs et réagir rapidement aux variations lumineuses. L'industrialisation et les avancées dans la chimie ont permis de développer de nouveaux pigments, notamment des couleurs plus vives et résistantes à la lumière. Les impressionnistes séduits ont vite adopté ces nouvelles couleurs. En 1841, les couleurs furent proposées pour la première fois en tube métallique refermable. La manipulation malaisée des poudres de pigments, que chaque coup de vent pouvait disperser, et le délayage de la couleur n'était plus nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que les impressionnistes n'utilisèrent plus aucun des pigments traditionnels. Impressionnisme, Karine Grimm, édition Tatchen. La règle, selon John Gage, dans Histoire naturelle de la couleur, étant de ne jamais essayer de peindre un paysage sous le soleil de midi, parce que les pigments ne pouvaient pas rendre cet effet de lumière particulier, et ne jamais non plus montrer directement le soleil. C'est en appliquant ces règles, en total accord avec leur art, que les impressionnistes ont su mettre en avant les travaux à travers 8 expositions allant de 1874 à 1886. L'exposition de 1886 marque la fin officielle du mouvement. Les artistes avaient obtenu une reconnaissance croissante, mais le groupe commençait à se dissoudre. De nouveaux mouvements artistiques se profilaient et les artistes avaient évolué dans des directions artistiques diverses. Il y a bien sûr encore tant de choses à dire sur ce mouvement et sur les personnes qui l'ont façonné. Je peux que vous encourager, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette partie de l'histoire de l'art, à consulter des ouvrages. Vous trouverez d'ailleurs sous la bio de cet épisode les références de livres que j'ai consultés pour ce podcast. Mais comme dit dans l'introduction de cet épisode, lors de mes recherches, j'ai constaté que les récits traditionnels se concentrent fréquemment sur les figures masculines qui ont laissé leur empreinte sur l'impressionnisme. Les femmes impressionnistes sont souvent occultées, reléguées à l'ombre de leurs homologues masculins. On en cite peut-être une ou deux, comme Berthe Morisot et Marie Cassa, mais est-ce que ça vous étonne vraiment ? Cependant, en creusant un peu plus, j'ai découvert qu'elles étaient bien plus nombreuses, et c'est précisément ces artistes dont on parle le moins que je souhaite mettre en avant au fil des épisodes de cette saison. Je vous retrouve donc très vite pour la seconde partie de cet épisode pour vous parler de la place des femmes impressionnistes. C'est donc ainsi que cette première partie sur l'histoire de l'impressionnisme se termine. Merci encore pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour la seconde partie de cet épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram Art au Féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, Art au Féminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur José Courrier, Noël Dulst et la Galerie du Jardin, les artisans de l'évolution artistique à Roubaix. Belle journée, belle soirée, à vous.